Psaume 40, versets 1 à 9. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et elles se sont confiées en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je vais répéter ce verset. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors, généralement, on a parlé de Dieu ce matin. On sait toutes les promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous, et il en a énormément, et elles sont belles, elles sont nombreuses. Mais est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas se dire, et si moi, je faisais des promesses à Dieu ? Hein, on sait bien de compter toujours sur Dieu, mais il y a ma part aussi quelque part. Et j'aimerais ce matin, justement, faire quelques promesses, enfin, quelques propositions de promesses. Après, vous faites ce que vous voulez avec, mais enfin, moi, j'aimerais bien que vous les acceptiez, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais faire quelques propositions de promesses, un peu comme le psalmiste qui dit je veux faire ta volonté. Vous voulez faire la volonté de Dieu ?
Oui.
Un peu.
Oui.
Un peu. Hein, parce que, honnêtement, on ne fait pas toute la volonté de Dieu. Il faut être honnête. Mais on pourrait peut-être faire mieux cette année. On a la chance d'avoir une année de plus. Hein. Vous avez fait des bonnes résolutions, j'imagine, au début de l'année. Vous avez arrêté de fumer, c'est bon ? J'espère. Mais on va faire des bonnes résolutions, mais... Mais en même temps, si on commence à s'engager vis-à-vis de Dieu en formant ça sous des promesses, ça change peut-être la chose. Donc c'est pour moi un peu chaque année comme un nouveau départ avec Dieu. Alors c'est tous les jours un nouveau départ, mais c'est peut-être le moment de vraiment m'arrêter, de me poser la question où j'en suis vraiment avec Dieu et qu'est-ce que je veux lui promettre pour cette nouvelle année. Je veux regarder en avant, hein, et le Seigneur nous permet encore de vivre pour quelques temps, j'espère encore très longtemps, mais bon... Et pourquoi pas promettre à Dieu ben, certaines choses. Alors, j'en ai 15. Elles sont très simples et vous les connaissez parce que c'est des trucs basiques. Hein, mais la première partie, c'est 5 promesses qui sont là pour mon bien-être. Vous aimez vous sentir bien ? On va en cure, on prend soin de soi, mais je parle de spirituellement. Hein, je parle de notre esprit, de notre cœur. La première promesse qu'on pourrait faire à Dieu, c'est dans la relation que j'ai avec lui. Hein. Dans Daniel 6, verset 10... Vous connaissez tous Daniel, il dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il risquait la mort, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Daniel était au chômage pour avoir le temps de prier 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'il faisait Daniel ? Un ministre, on pourrait dire. T'es un ministre, et il avait le temps 3 fois par jour de prier. De prendre juste un temps avec Dieu. Et là, en plus, il le faisait au risque de sa vie. Parce que cette première promesse que je pourrais faire à Dieu aujourd'hui, c'est que cette vie de prière, cette relation d'intimité avec Dieu puisse grandir. Vous êtes satisfait de votre vie de prière ? Vous vous dites à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai bien prié durant cette année ? J'ai trop prié presque. Vous avez déjà dit ça ? Un peu orgueilleux, hein ? Je pense qu'en regardant en arrière, on peut dire, ben, en tout cas pour moi, ben, je peux m'améliorer dans ce domaine-là. Si Daniel, lui, arrivait à prier 3 fois par jour, une fois par jour, c'est déjà pas mal. Hein. On verra l'année prochaine pour essayer 2 fois par jour. Alors, ce n'est pas forcément des moments formels de prière, mais on peut prier dans sa voiture, sans fermer les yeux, on est bien d'accord. On peut prier à tout moment. Mais je pense que Daniel avait 3 moments dans sa journée bien formels pour prier son Dieu et se souvenir de qui il était. Et je pense qu'en tant que ministre, il avait bien besoin. Hein. Projet 2017, hein, je vais le répéter plusieurs fois, ça pour que ça rentre bien dans la tête. Hein. Multiplier, pourquoi pas, par 2, par 3, je ne sais pas où vous en êtes, les moments d'intimité avec Dieu. On est d'accord ? Parce que c'est pour votre bien-être, hein, ce n'est pas pour moi, moi je ne gagne rien là-dedans. Hein. Mais c'est pour vous, ça va vous faire du bien. Deuxième promesse, dans ces 5 premières promesses, c'est mieux connaître le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 5, verset 12, il est dit, Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Et quand il parle des principes élémentaires, il parle des choses comme le baptême, enfin des choses qu'on sait. Lui, Paul, veut, enfin l'auteur des Hébreux, je pense c'est Paul, mais veut aller plus loin. Et il pense qu'à un moment, on doit apprendre à mieux connaître le Seigneur. Et le seul moyen, évidemment, c'est de lire la Bible. Là aussi, est-ce que vous êtes satisfait de votre année de lecture de Bible ? Ouah, tous les jours, 3 chapitres. Non, j'ai lu 3 fois la Bible dans l'année. En un an, ça se lit, hein, la Bible, facilement, en entier. Et dans tous les coins de la Bible, hein, pas Matthieu ou juste... Hein, il y a Agé, il y a un tas d'autres livres, des fois, qui ne sont pas toujours très digestes, on va dire. Mais c'est toute la parole de Dieu qui est inspirée. Ce n'est pas juste une partie. Et quelque part, c'est pour se muscler spirituellement que de lire la Bible. Hein. Celui qui lit la Bible devient fort. D'abord fort des promesses de Dieu, mais fort aussi de l'expérience de ces gens qui sont dans la Bible, qui ont vécu des choses et qui sont là pour nous servir d'exemple. Quelqu'un écrivait, en parlant de Tête de Lion, il disait « Un groupe de touristes découvre la ville de Londres. On les conduisit dans un atelier de sculpture. L'un des visiteurs demanda à un ouvrier qui travaille une tête de lion « Est-il difficile de sculpter un lion ?»« Oh non, » répondit-il malicieusement, hein, « il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. » L'application que fait l'auteur, hein, « Est-ce difficile d'être un vrai chrétien ?» Non, il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un chrétien, le mensonge, l'impureté, le compromis, la mondanité, etc. etc. Et en lisant la Bible, ben, cette tête de lion va se former. Tout ce qui n'est pas bon va disparaître de moi. Et finalement, je vais me faire du bien à moi, parce que le péché nous fait beaucoup du tort, et en même temps, je vais faire plaisir à Dieu. Projet 2017. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Étudier davantage la Bible, hein, la parole de Dieu, pour mieux la connaître et mieux servir celui que je suis. Troisième projet, ma sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, pas ce que Dieu penserait bien pour vous, ou pas, c'est une option. Ce que Dieu veut, ordonne, c'est ma sanctification. C'est ma sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, etc., etc. Dieu veut me transformer. C'est son projet pour moi depuis que je suis né de nouveau. Et quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai dit oui, je veux être transformé. J'ai signé, hein, quelque part, le contrat, si on peut parler comme cela. J'ai dit à Dieu, je veux être transformé. Alors, c'est ce qu'on parle de sanctification progressive, de transformation progressive que le Seigneur veut faire dans ma vie. C'est enlever cette chair qui, bien souvent, nous conduit à désobéir à Dieu pour simplement ressembler à Jésus-Christ et le suivre. Projet 2017, retirer tout ce qui nuit à ma vie, qui finalement déplaît à Dieu et qui ne permet pas bien souvent d'avoir une vie chrétienne épanouie. C'est un bon projet et il y a du travail, non ? À moins que vous soyez parfait, mais là j'ai quand même encore des doutes, hein, beaucoup de doutes. Dans le même sens, on pourrait parler de nettoyer, hein, quatrième promesse, le temple du Saint-Esprit, hein, Corinthiens 6, 19. Hein, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Aïe. Souvent on dit je, mais en fait aujourd'hui on devrait dire tu. Est-ce que je prends soin de mon temple ? Alors là, il y a tous les domaines de notre vie. Hein. On peut commencer par la nourriture, parce que souvent on oublie ça. Est-ce que je mange correctement, trop, pas assez ? Mes yeux, qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce que j'en fais ? Le sommeil, est-ce que je dors assez ? Ça, généralement, c'est pas trop le problème, hein, il me semble. Mes pensées, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, dans mon cœur ? Et ça, on pourrait l'écarter loin. Souvent, on pense là plus à l'immoralité, à des choses comme ça, mais l'amour de l'argent, c'est aussi dangereux dans notre vie. Ou alors l'amour de la carrière, je veux être le plus haut possible. Hein. Ça aussi, ça peut me freiner des fois dans ma vie de sanctification. Et ce n'était pas bon pour le temple du Saint-Esprit. Ma paresse, parce que là, c'est l'inverse. Hein. Oh, fatigué aujourd'hui. Pas aller à l'étude biblique, hein. Pas aller à l'église, je suis crevé. Si je m'étais écouté ce matin, je serais resté au lit. C'est la première fois que j'ai aussi bien dormi. Mais bon, il faut que je descende. Alors, je ne suis pas trop loin. Mais la paresse, est-ce qu'on n'est pas paresseux des fois, honnêtement ? Il faut l'avouer. Donc ce projet 2017, c'est faire de mon temple du Saint-Esprit, parce qu'il est là, en moi, un lieu saint, un lieu à la gloire de Dieu. Et comme on l'a vu, on ne s'appartient plus. On est censé obéir à notre maître. Puis cinquième... promesse, là, elle est un peu plus difficile, mais c'est ma discipline. Vous aimez la discipline ? Vous ? Non, c'est peut-être pas comme ça, mais rappelons une chose, c'est que chrétien, c'est un disciple. Et un disciple signifie discipline. Et en plus, ça signifie suivre le maître, normalement. Quelqu'un écrivait « Être chrétien à moitié, c'est vivre une expérience misérable. Être entièrement à lui, c'est le surmoyen de jouir de ce qu'il y a de meilleur. Être un vrai disciple, c'est être esclave de Jésus-Christ et faire à son service l'expérience d'une parfaite liberté. Il y a une liberté pour celui qui peut dire « J'aime mon maître et je ne veux pas le quitter. » Est-ce que vous aimez Jésus-Christ ? Dimanche matin. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ ? Quand même. On voit l'amour qu'on a pour lui dans notre vie quotidienne aussi. C'est là où on peut évaluer vraiment notre amour pour Dieu. Donc le chrétien est un disciple. En tant que disciple, on parle discipline. Alors là, je vais parler des retards. Alors, je ne parle pas de retard à l'église le dimanche matin, de tous les retards qu'on peut avoir dans notre vie. Parce qu'il y en a des retards. Si Dieu nous disait le projet qu'il a pour nous et s'il nous mettait en parallèle là où nous en sommes réellement, je crois qu'il y aura un grand écart bien souvent. Alors lui, il est plein de patience, le pasteur non, mais lui, il est plein de patience. Moi, j'aimerais que ça aille des fois plus vite, mais bon, ça c'est Dieu qui décide. Mais il y a des retards dans notre vie, dans tous les domaines peut-être. Et souvent, on a un tas d'excuses. Autant on peut faire des listes de tout ce qui va mal, par contre, on est des professionnels de l'excuse. Moi, le premier. J'ai un tas d'excuses pour dire à Dieu, je ne veux pas avancer. Vous aussi, j'imagine, non ? Il faut être honnête devant Dieu. De toute façon, un jour, il nous le dira, donc ce n'est pas la peine de le cacher. On aime s'excuser. Le problème, c'est que quand je m'excuse, Dieu dit, non, je ne suis pas d'accord. Mais nous, on tient comme acquis que, bon, bah, on accepte l'excuse et lui, il va être assez patient pour prendre avec. Est-ce qu'il aime ma paresse ? Romains 12, 11 nous rappelle qu'il faut avoir du zèle et non de la paresse. Vous êtes zélé ? Eh bien, quel zèle ! Quand votre patron dit d'aller travailler, vous y allez comme ça ? Non, je crois pas. Est-ce qu'on a le même zèle pour Jésus-Christ et surtout pour cette nouvelle année ? Est-ce qu'on a envie de lui obéir de la même manière avec ce zèle ? Avec cette envie vraiment de servir Dieu, ça c'est un bon projet pour 2017. Changer les mauvaises habitudes, parce qu'on en a encore beaucoup, et pour ressembler de plus en plus et plaire à Jésus-Christ. Il y a un boulot monstre dans ces 5 premières promesses. On pourrait s'arrêter là, parce que je trouve que je vous fatigue, il y en a encore 10 autres. Donc, mais ces 5 promesses, si je les mets en action dans ma vie, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre mieux. Et souvent, le chrétien traîne des pieds. C'est dur la vie chrétienne, mais parce qu'il manque tout ça tout simplement dans notre vie bien souvent. Et c'est une nouvelle année que Dieu nous offre, et pourquoi pas lui faire ses 5 premières promesses. 5 promesses pour le bien-être des autres. Alors on a pensé à nous, on va penser aux autres. Prendre soin de ma famille. 1 Timothée 5,8, il est dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » C'est quand même terrible ce verset. Si on ne pense pas à notre famille, on est pire qu'un infidèle. Et Dieu veut qu'on prenne soin de notre famille. Alors là, dans tous les domaines, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en prenant du temps pour elle, pourquoi pas un temps de prière aussi avec elle, si on peut le faire, ce n'est pas toujours simple. Prendre le temps dans les relations familiales, parents avec les enfants, l'époux avec l'épouse. Je sais qu'on court tous, ce n'est pas toujours simple, mais on peut trouver du temps pour mettre cela en place dans notre vie. L'objectif pour nous, pour les parents qui ont des enfants, ou pour moi en tant que pasteur dans l'église, c'est que ces enfants un jour connaissent le Seigneur, on est bien d'accord. Mais si moi en tant que parent, je n'amène pas mes enfants à l'église parce que je n'ai pas envie d'y aller, quelque part c'est eux qui pâtissent. C'est un peu triste. Donc c'est vraiment un encouragement pour nous que de les amener à l'église pour qu'ils connaissent et entendent la parole de Dieu, pour qu'un jour évidemment ça produise quelque chose dans leur vie. Ma paresse a un impact sur mes enfants bien souvent. Il ne faut pas l'oublier ça. Projet 2017, et la croissance spirituelle de mes enfants, et de mon couple, et de moi-même. C'est un travail que je dois faire. La famille, c'est important aux yeux de Dieu. Dans mes relations avec autrui, aimer son prochain. Je t'aime, mon frère. Ça, c'est les paroles. Mais aimer vraiment, c'est en action. C'est en acte. On peut dire à quelqu'un, je l'aime, il s'en fout complètement. Mais le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Dans Jacques 1, 27, il est écrit... La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache. Ce qu'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétien, s'occuper des autres. Il y a peut-être des gens que vous connaissez qui sont veuves cette année, ou des orphelins, ou peut-être plein d'autres problèmes, ben Dieu veut qu'on s'en occupe aussi, dans la mesure où on peut le faire, évidemment, prendre soin de l'autre, pas que de sa famille. On est souvent focalisé sur notre famille et on oublie carrément les autres à côté. Dieu veut qu'on aime tous les hommes, même les ennemis. Vous aimez vos ennemis? Oui, non, ben vous aimez moi pas. Au départ. Mais après, j'apprends à les aimer. Donc, projet 2017, j'ai envie de vous dire, regardez à côté de vous, là, quand vous êtes assis, il n'y a pas assez de monde aujourd'hui pour le faire, mais à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ben, prenez le temps déjà de le connaître, pourquoi pas. Et voyez s'il n'a pas des besoins, ou c'est ça, aimer son prochain. C'est faire attention à l'autre. Troisième promesse dans ce bien-être pour les autres, c'est vivre en paix avec le monde extérieur. Dans 2 Corinthiens 13, 11, il dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Seigneur veut qu'on soit des enfants de paix avec ma famille, pas toujours simple, hein, mais bon, avec mes amis, avec mes collègues de travail, avec mes voisins, etc., etc. Et le diable, lui, s'amuse souvent à détruire les familles, à détruire le couple, pour que justement, ben, on ne puisse pas être un bon témoignage autour de nous. Et évidemment, ça aura un impact. Hein. Mais vivre en paix avec le monde, avec une certaine limite, hein, parce que des fois, ça ne dépend pas de nous. On peut essayer d'aimer le prochain, mais si vous n'êtes pas, il ne vous aimera pas. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Mais dans la limite où ça dépend de moi, je vais essayer de tout faire pour être en paix avec l'extérieur. Projet 2017, chercher la paix. Si je suis peut-être en bise-bise avec un collègue, avec ma famille ou avec, je ne sais pas, mon époux, mon épouse, ben c'est peut-être l'occasion de chercher la paix, hein, et de mettre de l'ordre dans tout cela. Et si vous avez des ennemis, ben, pensez à prier pour eux. On en a toujours, hein, des ennemis, donc il y a toujours l'occasion de prier pour eux. Ça, c'est vivre en paix vers l'extérieur. Mais on pourrait dire aussi vivre en paix à l'intérieur. Hébreux 12, 13 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Quand on regarde dans notre cœur, est-ce qu'il y a encore des racines d'amertume? Alors, je ne parle pas de la semaine qui vient de passer. Il y a un mois, il y a un an. Parce que souvent, on s'en rend même plus compte que je n'ai pas réussi à pardonner à quelqu'un, que j'ai de la colère vis-à-vis de quelqu'un encore. Ça, c'est les racines d'amertume. Et le Seigneur voudrait que tout cela sorte de notre cœur. Enfin, ça nous fait du mal. Alors là, il va falloir passer par le pardon ou par d'autres formes de réconciliation, mais il faut que je m'en rende compte que ça fait du tort. Et le Seigneur veut qu'on vive bien. Ne pas laisser accès au diable aussi, parce que lui, il veut nous ronger lentement, hein, de l'intérieur, par rapport à ses racines d'amertume, mais par mille et une autres moyens. Vivre aussi sans hypocrisie. Quand ça ne va pas, dites-le. Vous faire semblant que tout va bien, dites-le. Moi, je suis très honnête avec Dieu souvent, hein. Je ne suis jamais hypocrite avec lui. Quand ça ne va pas, je lui dis, hein. Il est au courant. Mais c'est valable pour les autres aussi. J'aime pas l'hypocrisie. Hein. Si vous n'êtes pas content de moi, venez me voir, il n'y a aucun problème. Hein. Je vous dirai que je ne suis pas content de vous. Non, je rigole. Mais si on commence à vivre hypocritement, j'ai déjà vécu ça, c'est triste. C'est extrêmement triste. Hein. Le Seigneur veut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Et savoir se dire les choses aussi, avec amour. Hein. Il n'y a pas de mal à se dire les choses. Et quand on vit comme cela, on vit bien finalement au fond de son cœur. Hein. S'il n'y a pas de racine d'amertume, je suis en joie. Si je ne suis pas hypocrite, je suis heureux. Finalement, Dieu veut notre paix. Et donc, projet 2017, hein, si mon cœur est encore comme cela, et bien souvent notre cœur a encore des petits séquelles, que Dieu change ce cœur pour que je puisse vivre vraiment en paix avec moi-même, mais aussi avec mon prochain. Et cinquième promesse, hein, vis-à-vis des autres, l'évangélisation. Alors, on a commencé mardi à parler de l'évangélisation, vendredi, on va mettre à jour, on a commencé à parler d'évangélisation, mais sans aller dans le sujet vraiment, mais dans 2 Timothée 1, 7, il est dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je suis prêt, Dieu me donne la faculté d'aller annoncer la bonne nouvelle. » Alors vous êtes tremblant, je sais, moi aussi ça m'arrive d'être tremblant, mais je me souviens tout le temps de ce verset. Et fort de ce verset, je peux aller faire mon travail, tout simplement. Parce que mon job en tant que chrétien, c'est d'être ambassadeur de la réconciliation. C'est moi qui suis là devant les hommes à dire que Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui. Et vous avez des collègues, vous avez des gens qui ne sont pas encore réconciliés, peut-être la famille, peut-être des copains, des copines, je ne sais pas. C'est mon job à moi. Et est-ce que j'ai envie de faire la promesse d'arrêter d'être timide un petit peu dans ma vie, hein, et d'annoncer l'évangile? Ou alors de demander à Dieu de la force, justement, parce que je me sens faible, de pouvoir témoigner à ces gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Un jour, ils vont mourir. Hein. Et peut-être parce que je n'ai pas osé parler. Ce n'est pas évidemment ma faute, mais quand même, il y a ma part, là, quelque part. Projet 2017, partager la grâce sans me cacher, comme Jésus n'a pas honte de moi. Il le dit, si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous. Et bien souvent, on a honte du Seigneur, et c'est bien dommage. Et des fois, on a honte du Seigneur, et si on n'avait pas eu honte, il y aurait peut-être un impact pour la personne. C'est dommage, c'est ça qui est dommage. On n'ose pas, alors que la personne en face était prête à entendre. C'est curieux des fois. Donc 5 promesses pour les gens autour de nous. Vous leur voulez du bien aux gens autour de vous? Un petit peu, hein. Pas trop, mais un peu. Et puis 5 promesses pour le bien-être de l'Église. On va lire ce verset dans Actes 2, 42, que j'aime beaucoup. C'est un peu pour moi le socle des activités de l'Église. Actes chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient, alors non, on va lire verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, hein, ceux qui viennent de se convertir. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, vivement que ça arrive à être échi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Voilà quelques promesses qu'on peut faire à Dieu pour cette nouvelle année, hein, pour le bien-être de l'Église. D'abord, persévérer dans ma fréquentation de l'Église. Est-ce que je suis assidu ou est-ce que je suis paresseux? Ou alors, est-ce que je suis indifférent? La vraie question. Qu'est-ce qui m'empêche de venir à l'Église régulièrement? Je ne dis pas être légaliste, mais quelles sont les excuses qui m'empêchent de venir, honnêtement? Ce serait bien de prendre le temps à un moment de s'arrêter dans notre vie et de se rendre compte qu'on a des excuses souvent. Chaque fois que je manque une étude, peut-être, sans exagérer non plus, mais quelque part, je me prive d'une arme pour mon combat spirituel, pour ma vie quotidienne. Je me prive chaque fois. Il faut bien s'en rendre compte. Et sans tomber dans le légalisme, eux étaient tous les jours au temple. Et vous allez dire, ils étaient au chômage. Non, c'est pas vrai, ils travaillaient plus que nous à l'époque. Alors, je ne demande pas qu'on soit là au temple, enfin à l'église tous les jours, mais il y avait une telle amour pour Dieu, une telle joie de servir Dieu qu'ils étaient là tout le temps. Alors, on ne peut pas être là tout le temps, je le sais, mais quand même, le zèle qu'il y a derrière, ça, c'est une leçon pour nous. Parce que souvent, on perd beaucoup de temps dans notre vie. Quel est le temps qui est vraiment consacré à l'Église et à Dieu? J'ai fait des petits calculs, hein. Quelqu'un faisait des calculs, pardon. Alors, il y a 168 heures par semaine. Alors, on divise par deux parce qu'on dort, mais bon. Je consacre 1h30, si je viens au culte, par semaine à Dieu, sur les 168 heures. Pas grand-chose hein, quand on y réfléchit. Il y a 61 320 heures par an. Alors, bien, hein. J'en consacre que 474 si je viens une fois par semaine à l'église. C'est pas grand-chose. Alors quant aux études bibliques et réunions de prière, dit l'auteur, hein, je dis par mon absence, ce n'est pas important pour moi. Si je viens pas, c'est que c'est pas important. Sauf si évidemment je suis à l'hôpital, je peux pas faire autrement. J'ai pas besoin de prier. J'ai pas besoin de grandir. C'est pour ça que je suis pas là. Continuez en disant, par contre, combien de temps avez-vous passé cette semaine devant la télévision, la dernière série de Netflix qui vient de sortir, hein, devant Facebook, et j'ai regardé sur Internet, il semblerait qu'en moyenne, on passe 46 minutes par jour sur Facebook ou sur toutes les applications qui existent. Ça veut dire que dans une semaine, on passe 5h30 là-dessus et 1h30 seulement pour Dieu. C'est grave quand même quand on y réfléchit. Il continue, combien de fois avez-vous ouvert votre Bible cette semaine? Pas le temps. Qui a dit un jour, je manque de temps pour aller sur Facebook. Ah, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas le temps. C'est intéressant ce qu'il dit. Ou est-ce que j'ai dit un jour, je n'ai pas le temps de jouer sur ma tablette. Est-ce que vous avez déjà dit ça une fois dans votre vie? Jamais, j'en suis convaincu. Jamais. Ou peut-être une fois ou deux. Ou alors peut-être, il dit, hein, pendant les fêtes, est-ce que je dois absolument faire les courses pour le réveillon, donc je ne peux pas aller à l'église. Enfin, souvent, il y a des fois, hein, on est un peu pris. On peut se discipliner hein, pour arriver à l'église et faire les courses en même temps. Il continue, hein, les chrétiens de l'église primitive allaient tous les jours à l'église, on l'a dit. Daniel priait 3 fois par jour en tant que ministre, et malgré la menace de mort qui pesait sur lui, voilà la norme de Dieu dans la relation avec lui et la fréquentation de son église. Il n'en demande pas autant que Daniel, ou peut-être d'aller tous les jours, mais pas moins non plus. C'est important ce que je dis là. Et si Dieu décidait soudain de ne consacrer que 1h30 par semaine pour prendre soin de moi? Adieu le travail. C'est fini, votre travail, vous ne l'aurez plus. Adieu la nourriture. Adieu le vêtement. Adieu finalement tout ce que vous avez. Hein. Et s'il ouvrait votre dossier de prière que de temps en temps. Ah tiens, il vient de me prier. Bon, on va voir la semaine prochaine. Hein. Mais nous, on crie, on hurle à Dieu. Non, je ne suis pas pressé. Vous imaginez si Dieu faisait la même chose avec nous. Honnêtement, on serait... Est-ce que vivre ainsi ma relation avec Dieu démontre que je l'aime, honnêtement? Est-ce que je peux dire connaître Dieu? Soyons humbles. On se moque ouvertement du Seigneur, croyant qu'il ne voit pas la manière dont on utilise le temps. On croit que Dieu ne voit rien. Il faut arrêter. Quelque part, je dis à Dieu, hein, il dit, ton sacrifice sur la croix ne mérite qu'un peu de mon temps pour te remercier. Tiens, voilà, 1h30 par semaine. Je pense qu'il faudrait donner un peu plus de temps, non, au Seigneur. Alors, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais on peut faire un effort. Moi, j'en suis convaincu qu'on peut faire un effort et prendre plus de temps pour le Seigneur, pour la fréquentation dans l'Église, sans tomber dans un légalisme. Mais mon projet 2017, en tout cas pour cette Église, c'est que ma priorité soit l'Église. Vous savez, quand on va partir de cette terre, votre travail, toutes ces choses-là, c'est fini. Par contre, c'est Dieu qu'on aura en face de nous. Et qu'est-ce qu'il va dire, le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il aura à dire de notre façon de vivre, notre foi, la fréquentation de l'Église, etc. Étude de la Bible avant Facebook. Vous êtes d'accord ? Alors vous allez me dire, je ne regarde pas Facebook. Il y a d'autres choses. Deuxième promesse, persévérer dans la communion fraternelle. Et c'était quelque chose de très, très important à l'époque, surtout dans un moment de persécution. Hein. Parce que le mot parle d'association, il parle de, hein, le mot communion pardon, fraternelle, parle de partage intime, d'union. Là, il y a la libéralité aussi. Alors, la communion fraternelle, c'est pas d'être ensemble, de rigoler bêtement et de s'en aller. Ça, c'est pas la communion fraternelle. Le monde le fait. Hein. Il y a des associations qui le font très bien. La communion fraternelle, c'est des moments de partage. Pour ça, il faut être là. C'est des moments où on va partager nos expériences vécues. Hein, pourquoi pas, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu a fait avec moi ? C'est pas forcément qu'à l'église, ça peut être entre frères et sœurs. Est-ce qu'on prend le temps, des fois, de se visiter les uns les autres ? De s'accueillir par un repas ? Pourquoi pas ? Et moi, j'adore prendre un repas avec d'autres chrétiens parce qu'on partage sur la parole de Dieu, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et bien souvent, on n'ose pas ou parce qu'on ne connaît pas l'autre ou parce que c'est un inconnu ou je ne sais pas. Projet 2017, ouvrir ma porte à l'inconnu, pas à celui que je connais, à l'inconnu. Peut-être celui qui vient d'arriver dans l'église et on me demande souvent les noms. Mais allez leur demander les noms. Ah oui, pourquoi vous me demandez les noms ? Il est dans votre église, n'est-ce pas ? Mais prendre le temps d'ouvrir sa porte à l'inconnu, ou au moins déjà... son cœur, quelque part, et apprendre à mieux se connaître et à prier ensemble, évidemment. Troisième projet, persévérer dans la fraction du pain. Je pense qu'il y a là un effort de mémoire. Hein. Se souvenir de la mort de Jésus-Christ, on fait une fois par mois, mais j'aimerais qu'on le fasse un peu plus souvent, parce que ça nous rappelle notre état de pécheur, qui je suis, d'où je viens, etc. Et en même temps, la grâce qui est offerte. Hein, et de temps en temps, c'est quand même bien de se dire, purée, j'étais condamné à mort, mais je ne vais pas être condamné à mort. Bon, ça se voit qu'on n'a jamais été vraiment condamné à mort ou face à la potence. Hein. Parce que si on était vraiment face à la potence et qu'on est grâcé, je garantis que tous les jours, vous allez dire bonjour au président, merci pour la grâce qui a été faite. On devrait être comme ça avec le Seigneur et justement persévérer dans cette pensée de la fraction du pain, hein, c'est un effort de mémoire, se souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. C'est toute mon espérance de ressusciter un jour. Mais la vôtre, c'est pas de gagner au loto, hein. Mais un jour, d'avoir ce corps glorifié, d'être avec Jésus-Christ et d'être ressuscité, voilà toute mon espérance. Ça donne du zèle, non ? Ça donne de la joie, non ? De savoir qu'un jour, on va ressusciter. Vous n'aurez plus mal au dos. Vous n'aurez plus de bobos. À moins que vous aimiez vos bobos, mais moi j'aime pas, hein, mal au dos. Mais un jour, je vais être ressuscité, et ça donne de la joie. Savoir que Jésus est vivant aussi. Parce que quand on pense à la scène, on pense aussi qu'il est vivant aujourd'hui. Jésus est vivant et il est là tous les jours avec moi, il veut me reconforter au quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec lui, je peux tout dans ma vie. C'est se souvenir aussi qu'il vient bientôt, peut-être cette année. Peut-être qu'en partant un lundi matin au travail, enlèvement de l'église, c'est fini. Le patron va faire la tête, mais bon, espérons qu'il était chrétien, comme ça il parle avec vous. Mais est-ce qu'on y pense à ça ? Ou est-ce que bon, la vie continue tranquillement ? Le Seigneur peut revenir ? On ne sait pas, hein. Il n'a pas donné de date. Alors ça peut être cette année, comme je ne sais pas. Projet 2017, prendre le temps de méditer sérieusement sur le sacrifice de Jésus-Christ pour moi. Quand Jésus a donné sa vie, il ne faut pas que je me dise « Ouais, c'était normal, hein. Il fallait qu'il le fasse. » Il faut que j'ai un peu de reconnaissance quand même. Et que j'aille un peu plus loin que ma petite vie chrétienne de reconnaissance. Je pense qu'il faut vraiment comprendre le sacrifice qu'il a fait pour moi. Quatrième, c'est persévérer dans les prières en commun. Tout à l'heure, on a parlé de la prière personnelle. Mais la Bible nous dit aussi de persévérer dans cette prière en commun. Tous ces chrétiens, tous les jours, se réunissaient pour prier. Ils en avaient besoin, je pense, parce qu'il y avait la persécution. Mais quand il dit persévérer, ça démontre bien qu'il y a une difficulté. On ne persévère pas dans quelque chose qu'on fait facilement. Donc il y a là l'idée que c'est difficile de prendre du temps, d'abord pour prier pour nous-mêmes, mais encore plus pour aller à l'église, prier avec les autres. On n'est pas obligé d'être là tout le temps, mais si chacun son tour venait assez régulièrement, ça serait sympa déjà. Vous savez, une église qui se met à prier en commun, c'est une église qui va grandir, qui va se fortifier. Vous voulez que l'église grandisse ?
Bien sûr.
T'es sûr ? Pourquoi il n'y a personne le mardi ? Pourquoi on est trois seulement ? Alors, peut-être pas ce mardi, mais mardi suivant. Venez vraiment prier, et puis c'est même pour vous, on peut partager vos sujets de prière. Mais bon, mais j'ai encore des excuses, et mardi prochain, à 19h, je vais dire, je ne peux pas. Alors, je ne veux pas forcer les gens, mais à un moment, le pasteur doit aussi dire les choses. On n'a pas des excuses, il n'y a pas d'excuses. Si je peux venir, je vais dire non cette fois à mon excuse et je viens. Et je veux que cette église grandisse, je veux grandir moi, personnellement, en tant que chrétien. Et je veux prier pour les autres, parce que la prière, elle est en commun. Il n'est pas dit pour prier la prière, il est dit les prières. Il persévère pour les prières, c'est au pluriel. Pour soi, pour les prisonniers, comme de demande hébreu, pour mon pays, par exemple. Il y a des élections là qui vont avoir lieu. Alors, on parle politique, on dit plein de choses, mais est-ce que notre responsabilité, c'est pas de prier pour notre pays ? Ouais, on verra ça. Et une fois que les élections sont passées, voilà, mince. Ben oui, mais je veux dire, on n'a pas prié non plus. C'est pas pour ça que ça va pas se faire, mais le Seigneur nous demande et nous responsabilise dans ce domaine-là. Puis cinquième promesse que je peux faire à Dieu, n'est pas dans ce passage, mais quelque part il est inclus, c'est mon service dans l'église locale. Servir le Seigneur dans l'église locale. Me savoir utile, ça rend heureux. Quelqu'un qui sert dans l'église est heureux. Quelqu'un qui ne sert pas dans l'église n'est pas souvent heureux comme Dieu le veut. Mais pour ça, il faut que je me mette à disposition. Il faut que je... Ma première étape, ce n'est pas de vouloir servir, c'est de me dire, je suis disponible, Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Pas souvent, on dit, je veux faire, mais je ne suis pas disponible. D'abord, je veux dire, je suis là, Seigneur. J'ai compris que je suis ton disciple, que tu attends quelque chose de moi. Je suis là. Maintenant, fais ce que tu veux de moi. Je suis disponible. Et quand on fait ça, soyez sûr, Dieu va vous utiliser. Ça, j'en suis convaincu. Alors, il ne s'agit pas de devenir un activiste, faire de l'activisme, être à l'église tous les jours, tout le temps, etc. C'est pas ça. De toute façon, je vous arrêterai. Si je vous vois tous les jours à l'église, je vous fous dehors. Excusez-moi. Parce que vous avez une famille, vous avez des enfants. On est bien... Non, mais vous rigolez, mais ça existe. J'ai déjà vu ça. Hélas, on veut être tellement chrétien qu'on laisse tomber la famille. Non, ça, je ne suis pas d'accord non plus. Mais bon, il y a des choses à faire dans l'église. Et tiens, le ménage, il y a une liste, il faudra la remplir. On va lancer la chorale. On va voir ça tout à l'heure dans les annonces. Il y a des gens qui savent chanter, là. Allez, on va commencer la chorale. Il y a des gens qui ont... les flambeaux ont besoin de moniteurs, monitrices. Dites pas qu'il n'y a pas de travail dans cette église. Il y a du travail. Allez voir, essayez une fois. Allez voir comment ça se passe, pourquoi pas. On a besoin de gens, certainement, pour l'école du dimanche, de gens pour distribuer des traités, des gens pour aller faire des visites quand quelqu'un est à l'hôpital, etc. Et je mets des points de suspension parce qu'il y a certainement énormément de choses à faire. Je suis disponible. Ou alors déjà, la question, c'est savoir qu'est-ce que je fais vraiment dans l'église. Est-ce que je viens simplement et puis je pars. Vous avez chacun un don, la Bible nous dit. Vous avez quelque chose à faire dans cette église. Prenez le temps d'y réfléchir. Et puis on peut étendre, parce que ça c'est le service à l'égard de l'église locale, on pourrait étendre ça à l'église universelle. On ne va pas penser qu'à notre église. Est-ce que dans ma vision de l'église, je pense aussi à l'église dans le monde. Et quand je pense à l'église dans le monde, le Seigneur nous demande de prier parce qu'il manque beaucoup d'ouvriers. En France, il manque beaucoup de vrais pasteurs. Pas des charlatans qu'on voit aujourd'hui, mais des vrais pasteurs qui connaissent la parole de Dieu. Il en manque énormément. Il y a les instituts bibliques pour ça. Ah, pourquoi pas, une fois faire une semaine à l'institut biblique pour renforcer sa foi, apprendre un peu plus. Il existe la mission, on a nous des missionnaires et on veut prier pour eux. Et c'est pas juste prier pour eux, leur donner de l'argent et puis bon, on s'en fout de ce qu'ils font. Il y a la formation biblique pour moi-même. Enfin bref, aujourd'hui, vous savez, il y a tellement d'outils à notre disposition pour nous former, pour prier pour les autres, pour propager l'évangile. Et c'est curieux. C'est à ce moment-là que les chrétiens les utilisent de moins en moins. Je ne comprends rien. C'est bizarre. Mais on doit avoir dans notre vision de l'Église locale aussi cette vision de l'Église universelle. On veut prier pour les églises de la pastorale, par exemple, mais aussi les églises en France, les églises dans le monde. C'est aussi notre responsabilité dans la prière. Donc projet 2017, voir un peu plus loin que la facilité. Un peu plus loin. Je suis gentil, je vous dis qu'un peu plus loin. Moi, j'ai envie de dire, hein, sérieusement, beaucoup plus loin que la simple facilité de cette petite vie de chrétien qu'on a accepté de vivre jusqu'à présent. C'est facile. Dieu veut beaucoup plus. Moi, je peux que dire les choses. Un jour, c'est Dieu qui nous fera le reproche. Donc, il faut quand même prendre conscience à un moment que Dieu ne rigole pas avec tout ça. Il ne faut pas croire. Hein. Dieu, il se tait, mais un jour, il parlera. Et qu'est-ce qu'il aura à dire, hein? Voir plus loin que la facilité, voir ce que Dieu veut véritablement pour moi. Vous vous arrêtez de temps en temps dans votre vie en disant « Maintenant, Seigneur, je veux vraiment savoir ce que tu veux pour moi. Dans toute ma vie et dans toutes ces 15 promesses qu'on vient de voir, ou est-ce que ça ne nous intéresse vraiment pas ?» C'est bien, en début d'année, de s'arrêter, non? Et de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi durant cette nouvelle année? Ces 5 dernières promesses sont là pour faire du bien à mon Église. Ah. Si tout le monde était là ce matin, on serait presque 50. Vous imaginez? Et quand il y a beaucoup de monde comme ça, les gens qui vont venir de l'extérieur vont rester. C'est vrai, hein, ça marche, hein, c'est comme ça que ça marche, je suis désolé. Je veux vous donner une motivation pour être là, hein, mais normalement c'est le Seigneur, c'est pas pour le nombre, on s'en fout. Mais quelque part, ça démotive les gens qui viennent aussi. Il faut le savoir. Hein. Mais bon. Que le Seigneur nous aide à justement arrêter la facilité, mais plutôt à le servir fidèlement. Pour terminer, souvenons-nous de toutes les promesses de Dieu pour nous. Hein, et tout l'amour qu'il a pour moi au travers de ses promesses. Dieu nous aide, non? On ne peut pas dire le contraire. Il nous aime énormément. Et puis, il a donné son fils sur la croix. On ne peut pas dire qu'il ne nous aime pas. Mais est-ce que nous avons envie de lui faire plaisir de la même manière? On ne pourra jamais aimer comme Dieu, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on a envie de lui faire plaisir? Pas prendre des résolutions, parce que ça, ça ne sert à rien. Mais faire des promesses. S'engager réellement. Parce que quand je me fais baptiser, je fais aussi l'engagement de suivre le Seigneur. On oublie ça bien souvent. Je m'engage comme dans un mariage. Vous n'allez pas quitter votre femme de temps en temps ou votre mari. Enfin, je crois, j'espère que non. Mais je me suis engagé de la même manière avec mon Seigneur. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Est-ce que je suis prêt à tenir le défi pour cette nouvelle année et pour le reste, hein? On ne va pas dire qu'on va faire ça qu'un an. Par rapport à moi d'abord, à mon égard, ou envers les autres, comme on a vu, ou pour l'Église d'Étréchy. Est-ce que j'ai vraiment envie maintenant de m'engager? Alors, on va recommencer dans l'année, on va commencer tout doucement. Ouais, je m'y mets, ouais. On va arriver en mars, on va être un peu fatigué, et puis il vient de les grandes vacances, alors là, il n'y a plus personne. Et puis l'année prochaine, on recommence, hein, il faut repousser le... Eh oui. Mais on est comme ça, hein. C'est triste, quelque part. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Il veut qu'on s'engage réellement. On a le droit de prendre des vacances, hein, heureusement. Jésus lui-même a demandé de prendre du repos. Mais est-ce que j'ai envie de m'engager réellement durant cette année et ne pas attendre l'année prochaine pour vraiment faire toutes ces promesses à Dieu? Moi, je vous souhaite une bonne année en Jésus-Christ. Et pour moi, une bonne année en Jésus-Christ, c'est appliquer tout ça. Oui, Seigneur, merci pour toutes les promesses que tu nous fais et que tu appliques à la lettre pour chacun d'entre nous. Et comme on l'a dit, tu démontres là tout l'amour, profondeur de ton amour pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, bien souvent, nous voulons, mais nous ne voulons pas te rendre. Et quand nous consultons notre amour, il est bien souvent à la baisse, Seigneur. Et je prie que pour cette nouvelle année, au travers de toutes ces promesses que nous avons partagées, nous puissions faire grandir cet amour pour toi, Seigneur. Pas un petit amour paresseux, mais un amour zélé, qui a vraiment envie de te suivre, qui a vraiment envie d'apprendre de toi, qui a envie de grandir en maturité spirituelle, dans le service, Seigneur, et dans tous les domaines que tu nous demandes, Seigneur. Je pense que c'est comme ça que tu seras réjoui, que tu seras aussi glorifié, Seigneur. Et Seigneur, tu connais chacun de nos vies, tu connais nos excuses qui sont là, nos difficultés, notre manque de discipline peut-être. Seigneur, balaye tout ça et que nous puissions être de fiers disciples de Jésus-Christ. Seigneur, parce que nous vivons aujourd'hui avec toi et surtout parce que nous passerons l'éternité avec toi. Tu es notre vie, Seigneur, et uniquement toi. Et vraiment, donne-nous du zèle pour cette nouvelle année. Je te prie pour cette église d'Étréchy. Merci pour tous les nouveaux venus, et nous prions pour qu'elle puisse aussi grandir en nombre, Seigneur, et en maturité, et faire simplement tout ton plaisir, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.